Une seule fréquence, une seule radio. Radio Système d'Emdem. 93.7 à Beauvais.
Bonjour à tous. Nous sommes sur Radio Système avec Regard de Jeunes. J'ai comme invité Marguerite et nous allons aborder le sujet de l'identité mosaïque. Bonjour Marguerite.
Bonjour Sarah.
Et tout de suite, avant de commencer l'émission, nous écoutons Invitation des ogres de Barbac.
Je m'invite chez toi, c'est un endroit très rare. Il ne nous ressemble pas, car chez nous c'est nulle part. Quelques mots écrits pour toi, en français, mandingue ou bambara. Une chanson qui nous emmène à mille lieux de la haine. Quelques mots écrits pour toi, en français, mandingue ou bambara. Une chanson qui nous emmène à mille lieux de la haine.
Ne prenez qu'un saut. Kayoro nyumu manja, ani antra manka, para tanu wabli.
Quelques mots écrits pour toi, en français, matin ou bambara. Une chanson qui nous amène à mille lieues de la haine.
Je m'invite chez toi, je ne viens pas au hasard. On ne se connaît pas, raconte-moi ton histoire.
Quelques mots écrits pour toi, en français, matin ou bambara. Une chanson qui nous emmène à mille lieues de la haine.
Mali est un fagadou de Tetatou Gomo Moshinao. Nangaje Kasigi Kakikilene au Mali de Dou. Salamouya Bonso, Majatigi a Bonso. Mogo Dala Yesu Nomoba de Dou Anisira da la Colomba. Nita Tomimi, Segitonimi.
Quelques mots écrits pour toi. En français, malgré ou bambara. Une chanson qui nous emmène à mille lieues de la haine. Quelques mots écrits pour toi. En français, malgré ou bambara. Une chanson qui nous emmène à mille lieues de la haine.
Ils ont 9 ans, ils ont écrit des textes, ils nous emmènent à mille lieues de nos préjugés et de nos a priori, on va dire, sur l'identité.
Depuis que je suis à l'atelier écriture, j'aime mieux écrire et relire. Ça nous aide à mieux à lire et à écrire. Je vous présente mes camarades qui ont écrit un texte sur l'identité.
Marseille, que l'on soit noir ou blanc, nous couvrira du bleu de son ciel.
Je suis née dans la ville de Marseille, j'ai 10 ans. Je vais dans une école élémentaire qui s'appelle Albert Camus. J'aime ma famille, les nuages, le soleil et j'aime mes amis. J'aime pas les factures de plus de 1000 euros, les personnes qui m'embêtent ou m'énervent et j'aime pas les maths. J'aimerais voir des gens qui aident des enfants pauvres. Ce petit résumé de vie, c'est une identité. Tu vois, on est différents mais on se ressemble. Notre identité vraie, c'est celle qu'on a dans le cœur.
On a tous une identité. Parce qu'on est tous dans le même pays. Ce pays, il est dans nos veines, dans nos cœurs. Mais je peux aussi aimer d'autres pays. Il ne devrait pas avoir de barrière entre les pays parce que ça gâche la vie. Notre identité vraie. Notre identité vraie, c'est pas comme nos papiers. Notre identité vraie, c'est comme nos copains, ils font partie de nous. C'est comme nos yeux, nos cœurs, nos jambes, nos cheveux et c'est surtout la poésie.
Notre identité vraie, c'est mon cœur rempli d'espoir. C'est des gens pour moi et moi pour eux, c'est mon cœur. Mon identité vraie, contrairement à mon identité de papier, elle se périme jamais. L'humanité est grande, impossible à imaginer. Elle permet de vivre, de voyager dans les pensées. D'être égaux, ça évite le racisme.
Notre identité est internationale. C'est le pouvoir de notre cœur.
Regard de jeunes sur Radio Système, on vous parle d'identité avec Alicia, 22 ans, ou l'histoire d'une quête.
Je suis métisse, donc j'ai des cheveux frisés, des yeux marrons,
Je suis typée, je suis mulâtresse, mon père est noir et ma mère est blanche. J'ai été élevée par deux parents blancs, donc ça a été particulier parce que mon identité, j'ai mis très longtemps à la découvrir, à savoir à qui je ressemblais, sachant que ma mère est blonde aux yeux bleus, c'était pour moi assez compliqué. Jusqu'à ce que j'ai 14 ans et quand j'ai rencontré mon père naturel, j'ai reconnu ma bouche sur le visage de mon père, mes yeux, mon nez. Voilà, j'ai découvert enfin à qui j'étais au final. Je suis partie rencontrer sa mère, la mère de mon vrai père, donc ma grand-mère. Donc là, pour moi, ça a été quelque chose d'assez extrêmement chargé émotionnellement, puisque je ressemble énormément à ma grand-mère. Et ça a été pour moi vraiment un retour aux sources. Enfin, j'ai découvert mes racines. Et à ce moment-là, j'ai grandi et j'ai un peu plus découvert qui j'étais. Et au moins, dans le miroir, je savais à qui je ressemblais.
Alicia a été rapidement confrontée, par sa couleur de peau, à ce terme que l'on souhaiterait effacer de notre quotidien, discrimination.
Mais quand j'étais petite, oui, quand j'étais au collège, j'en ai souffert. Les élèves n'étaient pas du tout agréables pour moi. Pourtant, j'ai grandi dans un collège. On venait de tous horizons, mais c'est vrai que j'ai pas été forcément acceptée tout de suite à cause de mes cheveux. Étrangement, alors bon, pourtant, les cheveux, c'est des cheveux, mais... J'ai eu des soucis quand j'ai cherché du travail. J'ai les cheveux extrêmement frisés et assez longs, donc j'ai une coiffure assez volumineuse. Et en fait, je pense que les gens... Sachant que je cherchais dans la vente, c'est beaucoup sur la présentation. Et je pense que chez les gens, c'était pas assez... Chez certains patrons, pas assez rangé. Pour eux, c'était trop excentrique. Et du coup, je passais pas, malgré que ma tenue, je pouvais me balader en tailleur et avoir l'air très présentable avec des lunettes, mais voilà, cette coupe de cheveux ne leur correspond pas forcément. Ils préfèrent des cheveux tirés, un chignon bien rangé, quelque chose de bien propre. Et moi, ben voilà, j'ai une personnalité déjà un peu excentrique, mais alors les cheveux, ça aide pas beaucoup.
Discrimination ou pas ? Discriminée ou discriminante? Voilà deux questions qu'Alicia s'est posées.
Un client est arrivé, en fait, et on était côte à côte, toutes les deux, derrière notre bureau. Et le client s'est tourné directement vers ma collègue, alors que c'est moi qui l'ai salué en premier. Il ne m'a pas regardé, il a posé directement sa question à ma collègue. Et au final, c'est moi qui ai répondu, parce que je comprenais pas qu'il ne me regarde pas. Et il ne m'a pas regardé. D'ailleurs, ma collègue a pris le relais parce qu'on commençait à être gênés, on comprenait pas bien ce qui se passait, mais je veux dire, c'était la première fois que ça m'arrivait réellement, voilà, face à face. J'ai eu des soucis quand j'ai cherché du travail, mais c'est vrai que cette fois-là, ça a été assez surprenant, quoi. Mais il y a aussi une autre fois où, par contre, là, c'est moi qui ai été discriminante avec quelqu'un. Je sortais avec une amie, on allait dans un club un soir, et on a regardé des filles passer, mon amie, à savoir, est blanche, et on a regardé des filles en disant « T'as vu, c'est blanche ?» Et de m'entendre dire quelque chose comme ça, et de réaliser qu'à la fois, j'étais noire, mais aussi blanche, je me suis surprise à ne pas aimer ce que je disais. Même si les gens sont discriminants avec moi, j'ai aussi su l'être avec des gens qui pourtant me ressemblent quand même. Je me suis plus trouvée noire que blanche, alors que moi je suis quand même les deux, il faut pas que je l'oublie. D'aller les uns vers les autres, pour moi c'est ça l'important aujourd'hui, ça nous enlèverait beaucoup d'ennuis dans la vie. Un peu de légèreté, ça nous ferait du bien.
Nous allons écouter la maman d'Alicia, qui va nous parler en fait de l'accueil de sa fille au sein de sa famille et des préjugés auxquels elle a dû faire face dans les différentes étapes de la vie de sa fille. Donc on écoute Christine, 53 ans, sur Radio Système.
Alors il y a eu un accueil, un magnifique accueil de ce bébé que tout le monde a aimé d'emblée, dans la famille et dans l'entourage des amis. Elle a été de suite accueillie et aimée. Et puis elle a été tout le temps traitée comme une personne et non pas comme une couleur de peau.
Christine est confrontée dès l'école aux préjugés dont est victime sa fille.
Il y avait des petits soucis pour l'apprentissage de la lecture et on lui avait demandé de rencontrer la psychologue scolaire, mais on ne m'avait pas prévenu. C'est ma fille qui m'en a parlé en me disant qu'elle était allée dans le bureau d'une dame et comme ça s'est répété au moins deux fois, ça m'a interpellée et je suis allée de fait à l'école demander ce qui se passait. On m'a répondu que de toute façon, les enfants de couleur ou les enfants maghrébins étaient délaissés par leurs parents et que les parents ne se déplaçaient pas. Donc il y avait eu un amalgame qui avait été fait. Je pense que là, il y avait une connotation raciste très forte. Ensuite, il y a eu un travail de collaboration, bien sûr, qui s'est mis en place avec l'école. Tout est rentré dans l'ordre très très vite. L'institutrice a pu s'en excuser et la psychologue scolaire aussi, qui a fini par me recevoir et par reconnaître qu'effectivement, elle avait mis un petit peu la charrue avant les bœufs.
Après l'école, le monde du travail et encore le même combat contre les a priori.
Elle était extrêmement assidue pour faire cette recherche de travail, elle n'aboutissait pas. Et puis un jour on a fait le point et je lui ai dit je pense qu'il faut que je t'accompagne parce que je pense qu'il y a un amalgame qui se fait entre ton curriculum vitae et la couleur de ta peau. Elle a très mal réagi en me disant qu'à son âge, elle n'avait pas besoin de sa mère pour faire ses démarches. Je la comprenais, mais je l'ai persuadée en lui disant « Écoute, on fait l'essai, je t'accompagne et on va voir comment ça se passe. » Je m'étais tenue en retrait d'elle pour la laisser faire sa démarche. Et de suite, la personne a dirigé son regard sur le haut du curriculum vitae pour vérifier l'adresse. Ma fille lui a situé notre adresse au centre-ville et je suis intervenue à ce moment-là. Et j'ai senti que la personne était extrêmement troublée par mon intervention car elle ne m'avait pas repérée comme accompagnant ma fille. Et une fois de plus, je pouvais lire dans les yeux de cette personne l'étonnement d'être face à une jeune fille métisse avec une maman blonde aux yeux bleus.
Aujourd'hui, au XXIe siècle, des artistes se mobilisent pour une France des couleurs, comme Idir, chanteur d'origine kabyle, et un collectif de la nouvelle génération, Don Féfé, que nous allons écouter avec l'extrait de l'album, La France des couleurs. Allez, c'est parti.
Moi, je viens de là où l'on m'aime, je viens des îles ou des caves ou des halls, je viens du sable ou du ghetto. Moi, je viens de là où l'on m'aime, je viens des îles ou des caves ou des halls, je viens du sable ou du ghetto.
Bienvenue sur cette planète où l'homme gouverne seul, où le même fleuve est la preuve, pas toujours le même peuple. Rares sont ceux que l'on blâme pour des lits de belles gueules, mais vous nous faites peur, imaginez que nos petites filles deviennent peur. Je viens de là où tout est fait de gaieté de cœur, malgré les guerres d'aujourd'hui ou d'hier, dont on est spectateur berné. De la bonne entente, je me presse pas faire, puisqu'à terme, toute cette planète demeure mon seul pied à terre, ouais.
Moi je viens de là où l'on m'aime, je viens des îles ou des caves ou des halls, je viens du sable ou du ghetto. Moi je viens de là où l'on m'aime, je viens des îles ou des caves ou des halls.
bien du sable ou du ghetto.
Je viens de là où crèchent les sales gosses, de la grosse tête crade, et ici se faire des sauces et crade des soucis. Je viens de là où se négocie l'eau, où faut se sauver, sinon crever seul faire le ciment. Je viens de la grosse aussi, de Panama à Lomé, je suis de là où l'on m'aime. Salam, shalom, Azulu, amène pour moi sont la même. Je viens de là où black, blanc, beurre sont à la même enseigne. Battement de cœur à l'unisson, chez moi tout le monde saigne.
موضع كركيب لربي نصوى طيب للروع موضع كركيب لربي نصوى طيب للروع
موضع كركيب لربي نصوى طيب للروع
de là où le couvert est servi à toute heure, où l'accueil se fait bras ouverts.
Je viens de là où il n'y a pas de porte, pas de paria mis de côté, où qu'importe l'heure, t'es pas prêt ta fortune. Et je viens de là où si t'as pas de thune,
il te reste la bonne humeur.
Je viens de là où la fortune
se chiffre en rapport humain.
Moi je viens de là où l'on m'aime, je viens des îles, des caves ou des halls, je viens du sable ou du ghetto. Moi je viens de là où l'on m'aime, je viens des îles, des caves ou des halls, je viens du sable ou du ghetto. Moi je viens de là où l'on m'aime.
Donc, Regard de jeunes avec Peuple et Culture Gare sur Radio Système 93.7. D'autres artistes se mobilisent, dont Marie Cosnet, 38 ans, enseignante et écrivaine, qui lutte contre la discrimination. Et elle nous fait part de sa révolte face aux discriminations et au racisme.
Alors, la question, c'est comment on pourrait faire quelque chose, peut-être, ou chacun, ou globalement, pour se lutter contre les discriminations. Mais déjà, au départ, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il me semble que de discriminations qui ont toujours existé dans toutes les sociétés, etc., et dans la nôtre, on est en train de passer à autre chose, à quelque chose de glissant et on ne sait pas du tout où ça va nous mener. Et aujourd'hui, je ne parlerai plus de discrimination, mais de racisme qui est mis en place politiquement et d'une manière qu'on voit. En France, en ce moment, les gens n'en peuvent plus. Voilà, ça fait un an qu'on leur abâche. Qu'ils vont travailler jusqu'à je ne sais pas quel âge. Qu'on a un discours et une politique qui est mise en place d'exclusion systématique des étrangers. Là, on est en train de vivre un sacré mauvais moment. Et on les voit, les gens nerveux. On les voit, les gens anxieux, inquiets, apeurés. Et tout ça, ça ne peut pas mener du bon. Alors, ce qu'on peut faire après, c'est en témoigner, comme on essaie de faire tous, vous... nous, enfin tout ce qu'on essaie de faire, des toutes petites choses à notre niveau et à nos possibilités. Moi après j'ai l'écriture, je sais pas, ça paraît toujours très peu, ça paraît toujours si peu. On se dit plein de choses, on se dit on va écrire, on va être lu à 800, 900, 1000 exemplaires, on va dire 1000 fois, mais par 1000 personnes, ce sont 1000 personnes qui sont déjà assez convaincues, alors on peut se dire, on peut baisser les bras aussi. En réalité, non, c'est les 1000 personnes qui vont lire ce texte, eh ben, ils vont en parler, etc. Ils peuvent à la fois être relais aussi à leur tour, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est très peu, c'est ce que je me dis. Mais ça, c'est au quotidien, c'est chacun, c'est intervenir dans le train quand il se passe quelque chose, c'est prendre sur soi, même quand on est vachement timide, et pour intervenir à chaque fois qu'on voit quelque chose. Et puis résister à ce phénomène de peur, et puis à la bêtise en fait, résister à la bêtise qui nous envahit petit à petit, et essayer de voir et de faire voir autour de nous qu'on est manipulé en fait, et qu'on veut nous mener quelque part, peut-être pas. C'est peut-être pas conscient, ni lucide, ni très lucide, c'est ça très court terme, c'est pour des raisons sans doute électoraliste et sans doute à très court terme, de courte vue, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que peut être la conséquence de la conséquence de la conséquence.
Vous êtes sur Radio Système et nous allons écouter Mia, Papers Plane, musique de la BO de Slumdog Millionnaire. Sur Radio Système 93.7, nous abordons la question de l'identité mosaïque, c'est le thème de cette émission.
Radio Système, deuxième âge système.
J'étais si môme, j'ai pas fait gaffe à la connerie de tous ces grands. Maintenant que je le suis, je suis tellement con que je presse mon temps. comme une orange. J'aurais voulu revoir grand-père pour qu'il me raconte une belle histoire. J'aurais voulu revoir grand-père, y'a plus de lumière et j'suis dans le noir. D'un coup j'entends le brigadier qui m'interpelle comme un vieux sac. Dos au mur, j'étais bloqué, c'était le Corse. Patron du sac, il me dit passe tout, je lui dis passe quoi, il me dit le tout, je lui dis que j'ai rien, il me dit bougnoule, je lui dis fambou, mais je lui dis glal, j'ai rien, il me dit au bost, je lui dis pourquoi, elle m'a frappé comme un macro, j'ai fait des yeux de merlan frit et j'ai filé. Savoir le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans, la douce France m'adore tellement qu'elle m'interpelle à chaque tournant. J'ai pas le profil d'un président, pour eux j'suis né pour être brigand. Demande à Jacques le fataliste si j'ai le cran d'être aussi grand. Ici le rêve s'est fait trahir par une monnaie qui est pas la mienne. Ici le rêve s'est fait bannir par des pensées industriel, que ça te plaise, en fait je m'en fous, on voudrait tant que joue de la truelle. J'ai fait mon choix et c'est ainsi, je serai un deuxième.
Je serai un deuxième.
Un truc cruel.
Ouais.
Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans. Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans. D'un maghrébin quand t'as 20 ans. Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans. Tu veux savoir pourquoi les mots tous en bas de cet immeuble. Je veux savoir pourquoi le voisin me regarde chelou à chaque matin. Tu veux savoir pourquoi l'école a fait de moi quelqu'un d'aigri. Je veux savoir pourquoi ici je manque de confiance, la justice. Tu veux savoir pourquoi au fond je m'en fous un peu de tout ce qu'ils me disent. Le quotidien c'est moi qui le vis, le plus souvent c'est moi qui le vise. Maghrébin, quand t'as 20 ans, tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin. Quand t'as 20 ans, tu veux que je te dise, veux que je te dise le quotidien, le quotidien d'un maghrébin, maghrébin. Quand t'as 20 ans, t'as 20 ans, tu veux que je te dise, veux que je te dise le quotidien, le quotidien.
Radio Système 93.7 avec Regard de Jeune. Quand on est d'origine maghrébine, issue de la ZUP, comment on fait face aux a priori? En fait, nous allons écouter la Rachid, un jeune homme de 35 ans, qui a répondu à cette problématique et à la question comment lutter face à des discours stigmatisants et qu'il a entendu en fait depuis son plus jeune âge. Donc on l'écoute, Rachid, 35 ans.
Vivre à la ZUP, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, puisque ça fait partie de mon enfance. Et en tout cas, moi, ce qui m'a aidé énormément, c'est d'avoir fait des études. Ça m'a permis justement de sortir géographiquement du quartier, de voir d'autres architectures déjà, parce que c'est vrai que quand on est dans son quartier, ben, on ne voit que des bars HLM, et on suppose qu'ailleurs, il n'y a que ça, alors que ce n'est pas du tout ça. Et le fait d'avoir perdu justement mon père, ça a créé un déclencheur chez moi. Et automatiquement, moi, ça m'a donné l'envie de réussir sur le plan scolaire dans un premier temps, mais après professionnel. Mais au niveau familial, ça a eu un impact, puisque je pense avoir servi d'exemple, mais pas qu'au niveau familial. Je pense qu'au niveau du quartier aussi, on a été, on va dire, une famille un peu référente par rapport justement à la situation du fait qu'on avait perdu notre papa et que notre maman a eu ce courage d'élever 4 garçons en étant, en ne maîtrisant pas forcément très bien la langue française et en étant analphabète. C'est vrai qu'au départ, quand on est issu d'un quartier, quand après on essaie de s'en détacher et qu'on est on a envie de... c'est un mot qui revient souvent, mais de s'intégrer dans cette société. Étant donné qu'on a grandi dans une bulle, on a toujours cette peur, en fait, cette peur de l'inconnu. On est dans un phénomène de psychose, on a l'impression que tout le monde nous veut du mal. Après, c'est vrai que c'est renforcé aussi par les médias. C'est vrai qu'au départ, on ne sait pas forcément comment faire face à tout ça. Ce qui aide aussi à surmonter le racisme, c'est de considérer qu'on est tous des individus à part entière et que de toute manière, voilà, il faut qu'on soit accepté en tant qu'individu avec nos différences. Et donc ça, à partir du moment où on l'a en tête, là aussi, ça permet de surmonter énormément d'a priori.
Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
Radio Système, 2MH Système, 93.7.
J'ai jamais eu le chêne qui m'entravait les poings ni les pieds. Je crois que c'est pas la peine de faire un dessin. Esclave de ma profession et de ses revenus. Mais ça va pas, j'écris mes vers avec 2 L au menu. Ni enveloppe ni chèque ne m'ont fait l'écraser. Si ça pue, vise le projet, fais tout péter comme un kamikaze. Pas d'addition à présenter, je dois rien y chanter. C'est naturel comme rire ou plaisanter. Les diamants disparaissent parce qu'on ne voit que les grains. Les cernes veulent s'y voir qu'ils périssent tous dans l'étreinte. Solitaire ne passe-pas sous la table des princes. Peu loué pour secouer les pinces, ma vie rater les trains. Leur conseil c'est une pensée rigide. Je vois mes mains, l'horizon, enfin les forces invisibles. Certains d'aller au paradis vont d'être pieux. Que Dieu me jette aux enfers pour pas que je reste avec eux.
J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une barre de lumière j'ai planté ces pensées. Dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés. J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une barre de lumière j'ai planté ces pensées. Dans mon jardin, satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés.
J'ai choisi mon camp après avoir pris des cours sur la vie. Du coup, j'ai déclaré mon avis à tous les sourds. Mener ma façon de voir le monde et pas que ses contours. Ma tour, ma base, ce qu'elle vient d'en dessous. Tour, y'a un tas de robots qui gênent pas la matrice. Mon âme présente ses voeux et loin du fatis. Free MAN a fait ses classes dans la rue et pas la fac fils. Non pas que je sois fier, c'est mon monde et j'y peux rien. Le plus rien je l'ai eu, dès le début et dans la fin. Amen, dans le mal, amen. Le bien on cherche encore, sans penser à la fin. Ce que je crains, c'est d'être cloué au sol comme un chien. Dans ce pays on m'a dit que j'avais des droits en tant qu'homme. Ceux qui m'ont pas vu, du beau blanc, je suis pas le clone. Libre, je vibre, quand mon cœur se livre sur page. Mon imaginaire vit, mais je sens le décalage.
J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une barre de lumière, j'ai planté ces pensées. Dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés. J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une barre de lumière, j'ai planté ces pensées. Dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés.
Style de l'homme libre, livre de paix, car vivre en ivre, libre. Car sorti vainqueur d'un combat que trop livre, libre. Je voulais voir ailleurs, j'ai dû gravir des livres. Et pour conserver cette liberté, j'en ai tiré des rimes libres. D'aller où mes rêves me traînent, d'errer où bon me semble. Libre de lâcher les rênes, libre comme un pur sang. Avec mes calmes et mes coups de sang, mes joies et mes tourments. Libre de croire ou pas quand ils balancent leur boniment. Libre d'aller venir à ma guise sur ce fil en équilibre. Entre tout et rien, la marge est infime et j'y glisse libre. Comme le cours d'eau qu'on me laisse devenir rivière. Un beau jour je serai fleuve et je pourrai embrasser la mer. Libre de subir ou d'agir, de se taire ou de dire. De passer sa vie le dos routé éclaté ou le torse bombé libre. Mais si ça
faudra allumer les deux.
Une sacrée somme, cette chose n'a pas de prix. Nelson le sait comme personne.
J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une part de lumière, j'ai planté ses pensées dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la phase et le plan soient lancés. J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une part de lumière, j'ai planté ses pensées dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la phase et le plan soient lancés.
Regard de jeunes sur Radio Système, Regard de jeunes avec Peuple et Culture Gare. Donc aujourd'hui, j'accueille Marguerite, notre invitée. Donc Marguerite, nous allons discuter un petit peu, toi et moi.
Oui.
Marguerite, tu viens de Guinée.
Oui, je viens de la Guinée-Conakry.
Voilà. Et on va un peu s'interroger aujourd'hui sur comment tu es venue ici, donc en France, et en quoi le fait d'avoir fait des études t'a permis de te libérer un petit peu.
Ok, comment je suis venue en France? Il faut dire que en Guinée, mon mari était réalisateur, donc il a fait un film documentaire sur la dictature de mon pays. Et où il dénonçait en fait la dictature militaire et tout ça, et parce qu'il y a eu des tueries en janvier 2007 où la population est descendue dans la rue parce que tout simplement elle avait faim, elle avait soif, il y a pas d'électricité, pour dire ben voilà, on veut que les choses s'arrangent. Et comme ça ils ont fait descendre les bérets rouges dans la rue, et qui même pas avec des sommations, qui ont tiré dans la foule, ils ont abattu les gens. Donc dans ce film il dénonce ça, et moi en tant que professeur là-bas au lycée, je dénonce la corruption dans le milieu scolaire. Donc à la sortie du documentaire, je ne devais pas rester en Guinée, et l'ambassadeur lui-même a signé mon visa pour que je puisse quitter la Guinée. Donc ainsi, je suis arrivée en France. Arrivée en France, c'est tout un autre horizon. Voilà, il y a la différence culturelle, la différence de climat. Et au début, c'était d'abord le choc climatique. Voilà, je ne vais jamais oublier ça. On m'a dit qu'il faisait froid en France, mais je ne savais pas que c'était comme dans un congélateur. Voilà. Donc, quand je suis entrée tout de suite, c'était le choc. Voilà, et après ça, il y avait la culture à affronter et tout et tout. Ben voilà, j'arrive à m'en sortie. Et quand je suis arrivée, bon, avec un bac plus 5, il faut faire quelque chose, puisque je ne suis pas habituée à croiser les bras, active et tout ça, voilà. Donc aller à Pôle emploi, s'inscrire et tout ça, faire des démarches de boulot. Et là, on m'a dit, voilà ce que tu vas faire, il faut t'orienter vers l'aide à domicile, parce que ton diplôme, il ne sera pas reconnu. J'ai dit, ah bon, d'accord.
Grande déception.
C'était une déception, ça, il faut le dire. Mais comme je voulais travailler, je voulais me battre, alors je me suis orientée vers l'aide à domicile, et je travaillais, je faisais le ménage et tout et tout. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai continué, et j'ai fait tout ce qui pouvait être à ma portée. J'ai essayé de faire une équivalence de diplôme, et j'ai fait le BAFA, j'ai fait le brevet de secourisme, et voilà quoi. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai rencontré le chantier Regard de Jeunes, voilà, où j'ai été admise. Et sur ce chantier, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'ouverture, et c'est là que j'ai eu l'occasion de travailler mon projet professionnel, parce que je me dis, bon, là-bas, en Guinée, dans l'éducation, ici arrivé, qu'est-ce que je peux faire? Bon, si j'ai la possibilité de m'orienter vers l'éducation, je vais essayer de le faire, étant donné qu'il y a éducateur spécialisé que je pouvais faire. Donc, ainsi, je travaille mon projet professionnel. Voilà. Pourquoi je veux être éducatrice? Surtout parce que aider les enfants, puisque moi-même, j'ai été une enfance maltraitée et tout ça, donc je n'ai pas été consolée, conseillée et tout ça. J'ai toujours eu les larmes aux yeux, celle qui a été battue, qui a mangé dans la poubelle et tout. Donc, si aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir aider d'autres personnes, voilà, je le fais. Donc, c'est ainsi que je me suis lancée dans la préparation
projet,
au concours, voilà, d'éducatrice spécialisée. Voilà, donc j'en suis là.
Tu en es là, ouais. Donc, je vois que l'éducation... a beaucoup de valeur pour toi. L'éducation est quelque chose d'important, puisque par rapport à ce que tu me dis, je vois que sur ton parcours, c'est l'école, l'éducation qui a fait que tu as ce but-là, en fait. Mais pourquoi l'éducation est aussi importante pour toi?
Mais l'éducation, c'est le soubassement, c'est la base de tout. Quand on a une bonne éducation, c'est sûr que dans la vie, on peut pouvoir s'en sortir et tout ça. Voilà. Donc, chez nous, nous n'avons pas beaucoup de chance, comme il est ici, d'acquérir beaucoup de choses. Voilà, donc si aujourd'hui je travaille dans l'éducation, un jour viendra, je pourrai rentrer chez moi, voilà, et essayer de faire, parce que je me sentirai plus utile là-bas qu'ici, parce que ici c'est vrai, il y a eu beaucoup de faits et tout ça, mais là-bas tout est à refaire. Donc préparer mon projet professionnel et tout, et un jour rentrer dans mon pays pour servir, voilà. J'ai pas l'intention de rester ici, croiser les bras et tout ça, il faut
il
se battre.
Il fait trop froid.
Ouais, il fait trop froid et tout ça. C'est vrai que l'accueil est très chaleureux quand même.
Ouais, heureusement. Et puis ça va dans le sud, hein, ça va dans le sud, il fait pas trop froid. c'est pas monté dans le nord. Mais tu as des enfants, et qu'est-ce que tu espères pour tes enfants?
Oh, les enfants, c'est incroyable. Eux, ils se sont adaptés tout de suite. Il y a des jumeaux de 8 ans qui sont adorables, qui se sont tout de suite adaptés. Parce que l'éducation dans nos pays là-bas, c'est pas comme ici. Ici, il y a toutes les possibilités, toutes les opportunités mises au service de l'enfant à évoluer. Donc là, ça va, ils sont à l'école, ils se sont bien adaptés. Ils ont même oublié l'Afrique et tout ça. Voilà, quoi.
Ça ne te fait pas de la peine qu'ils oublient l'Afrique?
Ça me fait beaucoup de peine, voilà, mais je leur parle d'où ils viennent, de la tradition, de la culture. Il ne faut pas qu'ils l'oublient quand même, parce qu'un jour, il faudra qu'ils repartent là-bas, les voir et tout ça. Donc, avec les enfants, ça va, ils évoluent bien, j'ai de l'espoir.
Voilà. Mais c'est super. Et concernant le choc culturel, tu parlais de choc culturel. Quelle est la première chose qui t'a, à part le froid, qui t'a interpellé vraiment quand tu es arrivé ici en France?
Mais quand je suis arrivée ici, c'est en Afrique, il y a le côté social où les portes sont ouvertes. Quand tu as un problème, tu peux aller pleurer sur l'épaule de quelqu'un et tout ça. Alors qu'ici, j'ai constaté que c'était chacun pour soi, tout le monde chez soi et tout ça. Donc ça, c'était un peu dur avec la famille qu'on a laissée là-bas, parce que je suis partie, j'ai tout laissé, mon boulot, mes parents et tout ça. Voilà. Donc il y a cette sorte de pression. Il y a deux pressions. La pression de se battre pour arriver en France et la pression de la famille qu'on a laissée au pays, et qui, cette famille, pense que quand on arrive en France, on a devant sa maison un arbre où il y a de l'argent, on cueille, on envoie tout de suite, tu vois. Donc, cette pression de la famille, où on dit en Afrique que la famille, elle est large, il faut aider tout le monde et tout ça. Donc, il y a vraiment cette pression-là. Mais je vais y arriver.
J'en suis persuadée. Tu as la motivation et la force, et c'est important.
Il le faut.
Mais écoute, Marguerite, je te remercie. On se retrouve un peu plus tard pour dire au revoir à les auditeurs. Après cette petite discussion, nous allons faire une pause musicale. Donc ça s'appelle Daydream, excusez-moi pour mon accent anglais, d'Anthony Hamilton. Et à tout à l'heure. Regard de jeunes de Peuple et Culture Gare sur Radio Système 93.7. Donc je retrouve Marguerite. Donc cette chanson s'appelait Daydream, jour de rêve en français.
On va rêver.
Marguerite, de quoi rêves-tu?
D'accord, le rêve est permis, on va rêver, espérant que ce rêve deviendra réalité. Voilà. Donc je rêve d'un monde de paix, voilà, d'amour, de fraternité, un monde où il y aura le respect de l'un et de l'autre, voilà, le respect des différences, parce que c'est l'association de toutes ces différences-là qui fait une très belle broderie, voilà, c'est mon rêve.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que moi aussi, je rêve et j'espère que cette émission Identité Mosaïque, elle était faite un peu pour ça. C'était apporter un regard nouveau sur des thèmes qui sont abordés tous les jours, qu'on entend dans les médias en général, qui sont les termes de discrimination et identité. Et regard de jeunes, voilà, essayer d'apporter un nouveau regard, donc avec tous les reportages que vous avez pu entendre, donc sur les métissages, sur les discriminations, quand on vient de la ZUP. Voilà, et c'était pour un petit peu justement décoller les étiquettes. Et mon rêve, c'est ça, c'est que l'être humain arrête de se poser des étiquettes sur la tête, parce que les étiquettes, c'est une barrière, en fait. Okay. Et enfin, c'est mon avis. Hein. Et voilà. Mais cette émission n'aurait pas eu lieu, enfin, n'aurait pas pu être là, diffusée sans l'association RIV, Radio Système, évidemment, le Conseil Général, la Directe, l'Europe.
Et on remercie aussi la mission locale d'agglomération pour l'emploi, Nimaglo. On remercie Michel Ramion et Peuple et Culture Gare.
Et aussi Mireille Molliard, notre chef du chantier sur Regard de Jeunes. chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne journée sur Radio Système. Et puis, j'espère à bientôt. Et on écoute tout de suite Fly Away de Lenny Kravitz.
C'est parti. Au revoir.
Au revoir.
Sky, so very high, just like a dragonfly. Une seule fréquence, une seule radio. Radio Système 93.7 à Vauvert.